Moteur. Ça tourne. Action.
Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne.
Alors moi, il met pas.
Bienvenue au club, Madame Béteille.
Puisque tu n'es pas venu à la Gerber, c'est la Gerber qui vient à toi.
Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Arcanes du cinéma, le podcast consacré au cinéma français du XXe siècle. Petite annonce aujourd'hui, avant de commencer. À partir du 1er décembre, j'organise un concours de Noël sur Instagram. Avec bien sûr un super cadeau à gagner. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner au compte Arcanes du cinéma et de suivre les indications en story. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous sur Instagram, c'est jusqu'au 24 décembre. Bonne chance à tous.
Oh, oh, oh.
Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le cinéma des années 80, une période où la fréquentation des salles est en chute libre, mais avec quand même quelques beaux succès pour le cinéma français. On partira ensuite à la rencontre de Claude Zidi, réalisateur de célèbres comédies, Les Bidasses, L'aile ou la cuisse, Les Soudoués, et on finira notre petit voyage dans les années 80 avec deux grands films qui avaient fait un carton à l'époque, Jean de Florette et Le Grand Bleu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! À la fin des années 70, le cinéma français subit l'arrivée massive de la télévision. Les foyers sont de plus en plus nombreux à en être équipés. La télé est désormais en couleur, avec de plus en plus de chaînes. En 1984, c'est la naissance de Canal+, la chaîne cryptée qui propose à ses abonnés des films récents, issus du cinéma. Les Français sont donc tentés de rester chez eux et de regarder des films depuis leur canapé. En plus, dans les années 80, c'est l'arrivée du magnétoscope. Il y a le marché des enregistrements et des locations de cassettes qui se met en place. Tous ces éléments débouchent donc sur une baisse de la fréquentation des salles de cinéma. Entre 1982 et 1988, le nombre d'entrées chute de 40%. En 1988, on passe même sous la barre des 125 millions de spectateurs annuels. C'est du jamais vu pour le cinéma français. La tranche d'âge des 15-24 ans fréquente beaucoup moins les salles et se désintéresse des films français. Les années 80, c'est le début des premiers jeux vidéo, des clips, des effets spéciaux. Les ados et les étudiants ont des attentes nouvelles quand ils vont au cinéma. Ils veulent bien payer leur place, mais à condition d'en avoir plein les yeux. Les jeunes veulent des films avec de l'action, de la science-fiction et du grand spectacle. Dans les années 80, ce sont les productions d'Hollywood qui séduisent le plus. Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner. Désormais, les films américains représentent plus de 50% des entrées. Les productions françaises, faute de moyens, attirent beaucoup moins de public. Pour survivre, le cinéma français doit se battre. En 1986, le CNC, le Centre National du Cinéma, met en place un fonds de soutien pour l'industrie audiovisuelle. En 1988, sous François Mitterrand, le gouvernement restreint la diffusion des films à la télévision. Et les chaînes de télé, comme Canal+, doivent désormais aider au financement du cinéma français. C'est le début des coproductions entre les chaînes de télé et les studios de films. Mais la concurrence avec les films américains reste très très rude. Pour essayer de séduire à nouveau le public, le cinéma français devient une marchandise culturelle. Certains réalisateurs, comme Jean-Jacques Hano, se lancent dans les super-productions avec des films à gros budget, comme La Guerre du Feu en 1981 ou Le Nom de la Rose en 1986. Les acteurs sont surpayés, Les frais publicitaires et de sponsors s'élèvent parfois à plusieurs millions de francs. C'est une nouvelle façon de produire des films. Dans le précédent podcast, je vous avais parlé du Star System des années 70. Un système, souvenez-vous, qui consistait à tout miser sur un acteur célèbre, sur une tête d'affiche, pour faire venir un maximum de public dans les salles. Eh bien, dans les années 80, le Star System est mort. C'est un système qui ne fonctionne plus. Malgré la concurrence de la télé, d'Hollywood et du manque de moyens, certains films français des années 80 remportent quand même un grand succès. Notamment des comédies, comme La Boum de Claude Pinoteau en 1980, Trois hommes et un couffin de Colin Serrault en 1985, ou encore La vie est un long fleuve tranquille en 1988. La troupe du Splendide, avec Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, devient quant à elle l'une des troupes favorites des Français après le succès du Père Noël est une ordure en 1982.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Ouais. Il fallait pas, vraiment.
Ouais,
c'est...
Ouais.
C'est... Pardon. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui ? Ah, ben bien sûr. Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi.
Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein.
Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse.
Dans les années 80, le cinéma français populaire, celui des comédies où l'on rit sans se poser de questions, parvient encore à séduire un public large. Mais ce n'est plus le cas pour le cinéma d'auteur, qui est désormais considéré comme ennuyeux et trop intellectuel. Les films d'Éric Rohmer ou de Jean-Luc Godard n'intéressent désormais plus qu'une petite fraction du public, généralement urbain, diplômé, et considéré comme intello.
Je viens vous présenter deux projets d'épée d'académicien que je vous ai établis. Le premier, un pommeau représentant une cuisse sur une aile. Et le deuxième, une aile sur une cuisse.
C'est parfait. Bah vous, au moins, vous manquez pas d'imagination. Le premier est très bien. Ouais.
On a un grand poil dans la main. Parce qu'on se fout du lendemain.
68% des parents réclament pour leurs enfants un système pédagogique répressif. Répressif. La répression. Mais ils en auront de la répression. Ils en auront pour leur argent.
Druide, prépare la potion magique. Y a les Romains. Les Romains.
Il me reste 3 gouttes, ça devrait suffire.
Quel est le point commun entre l'aile ou la cuisse, les sous-doués et Astérix? La réponse tient en un seul nom, Claude Zidi. Claude Zidi, c'est un réalisateur, producteur et scénariste français qui a su faire rire plusieurs générations de spectateurs. Ça vous dit d'en savoir un peu plus sur lui ? Allez, on rembobine sa vie. Claude Zidi naît en 1934 à Paris de parents algériens. En 1955, il est diplômé de l'école technique de photographie et de cinématographie. D'abord assistant opérateur, puis caméraman, il apprend le métier aux côtés des grands réalisateurs du moment, Claude Autant-Lara, Jean-Pierre Mocky ou Claude Chabrol. En 1970, Zidi devient réalisateur et scénariste. Pour son premier film, il met en scène les Charlots dans Les Bidas en folie, puis Les Fous du Stade. C'est l'un des réalisateurs français les plus appréciés du public entre 1970 et 2000, avec 25 films au compteur. Pendant près de 30 ans, Claude Zidi encadre des stars françaises. Louis de Funès, Coluche, Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Philippe Noiret. Dans le monde entier, le public connaît ses films. En 1980, Claude Zidi veut se lancer dans la production. Il décide alors de mettre à l'honneur un acteur encore très peu connu, Daniel Auteuil. Zidi lui offre ainsi l'un de ses premiers rôles dans Les Sous-doués, que vous connaissez certainement. Claude Zidi voit également sa carrière consacrée en 1985, lorsqu'il remporte le César du meilleur film et du meilleur réalisateur pour sa comédie policière, les ripoux. Véritable satire de la police et de la petite délinquance, Les Ripoux rassemble au casting Thierry Lhermitte, Philippe Noiret et Grâce de Capitani. C'est l'histoire de René Boiron, un commissaire de police parisien en fin de carrière. Passionné de course hippique, René passe sa vie à encaisser des pots de vin auprès des habitants du quartier et à faire des petites magouilles pour rembourser ses pertes et ses paris foireux. Un beau jour, sa routine est chamboulée par l'arrivée de François Lebuche, un jeune inspecteur tout juste sorti de l'école de police. François, très honnête, refuse d'abord de tremper dans les combines de René, qui adapte les lois à sa façon. Mais François tombe amoureux de Natacha, une prostituée, et finit par devenir lui aussi un ripoux, c'est-à-dire un pourri, comme son collègue.
J'ai un petit cadeau pour vous, mon cher Boiron. Pour remplacer Pierrot, on nous envoie un jeune inspecteur, d'Épinal. Je compte sur vous pour le former.
Bonjour, je viens d'Épinal.
Oui, oui, je sais ça. Je sais.
Je viens peut-être de province, mais il faut pas me prendre pour plus con que je suis. Hein.
Mais non, pourquoi ?
Vous croyez que j'ai pas vu que le patron vous a rendu 100 francs de trop ?
Mais enfin, comment ? Je lui ai donné 500 balles, il m'a rendu 400, qu'est-ce que tu racontes ?
Il faudrait bien que vous m'expliquiez pourquoi c'est la cantine la moins chère de Paris.
Le patron, une fois par semaine, il organise une partie de craps dans sa cave. Moi, je laisse faire et en échange, il me nourrit à l'œil.
Je vous préviens, je mange pas de ce pain-là.
Heureusement qu'il n'y a pas que des ripoux chez les flics.
J'ai un tuyau comme on n'en a pas un par an, mon vieux. Tu veux en croquer ? Avec 500, tu vas toucher 10 briques, mon vieux. Moins mes 10%, normal.
15, si vous voulez.
Non, 10. Faut être honnête.
Dites donc, ça veut dire quoi, ripoux ?
Ah, tu connais pas le verlan ?
Non.
Tu inverses les syllabes des mots. Ripoux, pourri, pourri, ripoux.
Ah, oui, oui.
Tu comprends bildé, par exemple ?
Bildé. Débile.
Voilà. Tu y es, mon petit bonhomme.
Les ripoux ont attiré 5,8 millions de spectateurs dans les salles de cinéma en 1985. Face à ce succès, Claude Zidi a réalisé deux autres volets, Ripoux contre Ripoux, en 1990, et Les Ripoux 3, en 2003. Chez les fans de Thierry Lhermitte et de Philippe Noiret, il y a même eu une sorte de Ripoux-mania, à tel point qu'un jeu de société a été édité. C'est un jeu de plateau, adapté du film, ça s'appelle Les Ripoux, évidemment. La règle est simple, pour gagner, il faut extorquer de l'argent aux autres joueurs. Aujourd'hui, le jeu n'est plus vendu dans les magasins, mais vous pouvez encore trouver quelques boîtes d'occasion sur Internet. Attention, les cinéphiles s'arrachent les exemplaires qui existent encore. À côté de ses grands succès commerciaux, Claude Zidi a aussi réalisé des films moins connus, un peu tombés dans l'oubli, comme Association de malfaiteurs avec François Cluzet et Christophe Malavoie, sorti en 1987. Zidi réalise ici une comédie qui emprunte aussi des éléments du thriller et de l'enquête policière. Bon, je vais être honnête, Association de malfaiteurs, c'est l'un de mes films favoris, et aujourd'hui je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous cette comédie qui, à mes yeux, n'est pas assez connue. Thierry, Gérard, Francis et Daniel sont d'anciens élèves d'HEC qui sont restés amis 10 ans après l'obtention de leur diplôme. Tous sont devenus banquiers ou PDG. Tous sauf Daniel, qui collectionne les tuiles, les mauvaises affaires et les foirages financiers. Daniel est considéré un peu comme le raté de la bande, celui dont on se moque car son compte en banque n'est pas très garni. Un soir, Thierry, Gérard et Francis s'amusent à truquer un enregistrement télévisé du loto et font croire à Daniel qu'il a empoché le gros lot.
Qu'est-ce que tu joues là ? Ta date de naissance, non ? Ton numéro de voiture ?
Alors que moi je connais les numéros qui ne sont jamais joués.
Et ça sort ? Je suis seul.
Et ça sera pour gros.
Ah, si seulement il pouvait gagner.
Il peut gagner. Il va gagner.
Non mais c'est vraiment drôle comme blague ça.
C'est pas toi qui as souhaité le voir gagner ?
Oui, mais là, il gagne pas vraiment.
Il va le croire pendant quelques instants. C'est bon de dispenser un peu de bonheur autour de soi.
Mais la blague tourne mal. Daniel part immédiatement signer un contrat avec Bernard Hassler, un requin de la finance. Catastrophés, les trois amis cherchent à tout prix à convaincre Hassler de ne pas encaisser le chèque. Mais Hassler refuse.
Oui, mais t'as quand même un peu le sens de l'humour.
Je préfère celui des affaires. Daniel est jamais venu te voir. Tu déchires son chèque, la garantie prise sur la boutique de sa pauvre mère, tout.
C'est impossible. Toi, t'as tout réussi. Daniel, il a tout raté. Alors pourquoi tu l'enfonces comme ça?
Moi? Mais je n'ai jamais fait croire à cet imbécile qu'il allait être milliardaire ou qu'il l'était déjà.
Thierry, Gérard et Francis décident alors de le faire chanter et lui volent son coffre-fort. Une cavale commence alors entre la police, les trois amis, Daniel et Hassler. Attention, spoiler, Claude Zidi a conçu un scénario à rebondissement. Les 30 dernières secondes du film sont complètement inattendues.
Dedans, il y a le chèque et les papiers que Daniel a signés chez Hassler.
Enfin, parce que vous avez...
Mais t'angoisse pas, Hassler nous a prêté son coffre, mais il a oublié de nous passer ses clés.
Ah ouais, alors prépare tes outils.
Un coffre-fort n'a pas de secret pour un banquier. Hein?
Monsieur de Rock, commissaire Brunet, où êtes-vous?
Je suis dans la merde.
Zidi livre un portrait grinçant des banquiers, des traders et des grands patrons qui jugent les gens à la grosseur de leur portefeuille.
Entre nous, qu'est-ce qui nous fait courir? C'est l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. Seul l'argent peut nous rendre vraiment heureux. Et nous sommes tous là pour faire de...
L'argent!
Nous sommes d'accord. Eh bien, la morale de cette histoire, c'est que dans la vie, pour gagner de l'argent, il faut se remuer le cul.
Voilà un petit aperçu des films qui ont été produits par Claude Zidi durant toute sa vie. Ça me paraissait intéressant de revenir aussi sur un cinéaste qui a choisi de s'orienter vers la comédie tout au long de sa carrière. On a eu l'occasion de parler de cinéastes engagés, de cinéastes plus novateurs au fil des podcasts. Mais le cinéma français, c'est aussi des comédies, c'est aussi un cinéma qui fait rire. Donc voilà, ça me paraissait vraiment essentiel aussi de faire un petit détour par ce genre cinématographique. Et si on partait en Provence, loin du bruit, au milieu des garrigues? C'est en tout cas ce que proposent Jean de Florette et Manon des Sources, deux films de Claude Berry, sortis en 1986. Ces deux films sont tirés du livre de Pagnol, L'eau des collines. Dans les années 20, Hugolin, joué par Daniel Auteuil, revient dans son village des Bastides Blanches après la guerre. Il a un rêve, faire fortune en cultivant des œillets. Son oncle, César Soubéran, dit le Papet, joué par Yves Montand, est prêt à tout pour que Hugolin, son unique héritier, réalise ce projet. Mais dans cette Provence où il fait si sec, faire pousser des œillets n'est pas une mince affaire. L'eau est indispensable. César et Hugolin convoitent une propriété voisine, les Romarins, où se trouve une source. Pour faire baisser le prix du terrain, ils décident de boucher la source avec du ciment. Mais un homme venu de la ville, Jean Cadoret, dit Jean de Florette, joué par Gérard Depardieu, s'installe bientôt sur la ferme. Jean de Florette veut mener une vie de paysan, proche de la nature. Les Soubérans entament alors une lutte à mort pour récupérer la propriété. Les deux volets du film, Jean de Florette et Manon des Sources, ont totalisé à eux deux 14 millions d'entrées en 1986. C'est un record pour des productions françaises. Les deux films ont également remporté 8 Césars en 1987. Et si vous aimez la musique, sachez que le thème principal de Jean de Florette est tiré d'un célèbre opéra de Giuseppe Verdi, La force du destin. Sur Instagram, j'ai reçu il y a quelques semaines un message de Louis, 15 ans, qui m'a demandé si je pouvais parler de son film préféré dans les arcanes du cinéma. Ce film, c'est Le Grand Bleu, de Luc Besson, sorti en 1988. Le Grand Bleu, c'est justement un film phare des années 80, qui réunit à l'écran Jean Reno et Jean-Marc Barr. Alors chaussez vos palmes et inspirez un grand coup, c'est parti pour 2h50 sous la surface de la mer. Le Grand Bleu, c'est l'histoire de Jacques Mayol et Enzo Molinari, deux amis d'enfance passionnés par la plongée. Enzo devient champion d'apnée, tandis que Jacques, passionné par les dauphins, s'orientent vers la recherche scientifique. Mais au fil des années, tous deux entrent en compétition. Les deux hommes se défient continuellement, descendant toujours plus vite, plus profond, plus longtemps. En fait, Le Grand Bleu est inspiré des vies de Jacques Mayol et Enzo Mallorca, deux apnéistes célèbres qui ont tous les deux battu des records de plongée dans les années 60-70. Le Grand Bleu a été en tête du box-office français en 1988 avec 9,2 millions d'entrées. Luc Besson a reçu le César du meilleur réalisateur en 1989 et la musique du Grand Bleu a elle aussi été primée. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau numéro des Arcanes du cinéma. Si oui, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et de participer au concours de Noël sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.